Louis Dauphren.
L'idée vient d'une association de victimes travaillant sur la lutte contre la pédocriminalité dans l'Église. Elle propose la création d'un pavillon, d'un mémorial. Ce serait un témoignage monumental, une sculpture par exemple, signe de la reconnaissance de la souffrance de ces victimes et qui pourrait être installée en périphérie du sanctuaire de Lourdes, selon un projet présenté par Olivier Savignac, membre du collectif de victimes Foi et Résilience. Alors ça, c'est une façon d'introduire le sujet en rappelant le contexte. Quoi qu'on pense de cette idée, il y a la volonté d'agir et plus que symboliquement. Fin mars, les évêques entendent se prononcer sur un éventuel dispositif de reconnaissance de la souffrance vécue par les victimes qui pourrait comprendre plusieurs aspects, dont un aspect mémoriel que l'on vient de citer. Au préalable, l'épiscopat est réuni à huis clos jusqu'à aujourd'hui pour aborder la pédocriminalité et la notion de responsabilité de l'Église. Notion délicate que l'on va essayer de travailler avec Céline Béraud, qui est sociologue, directrice d'études à l'EHESS, membre du Centre d'études en sciences sociales du religieux, le CESOR, et elle publie au Seuil « Le catholicisme français à l'épreuve des scandales sexuels ». Bonjour Céline Béraud.
Bonjour Louis Dauphren.
Comment êtes-vous entrée dans cette histoire? Puisqu'il y a 2 ans, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, il y a 2 ans, c'était une année épouvantable en fait pour l'Église catholique.
Oui, alors moi je suis sociologue, spécialiste du catholicisme, et dans cette question j'y suis entrée pas tout à fait par hasard, mais presque. C'est un prêtre que je connais qui m'a écrit, qui m'a dit « Vous êtes sociologue, vous êtes chercheuse. En ce moment, ce que vit l'Église catholique est terrible. Et à l'échelle de la paroisse, on essaie d'en discuter, on organise un temps de parole. » Et donc, il m'a invité à aller observer ce temps de parole. Et c'était un moment assez particulier, assez fort, parce que se trouver là réunis dans l'église, hein, c'était dans le lieu de culte, à la fois les deux curés, enfin le curé et un des vicaires de la paroisse et des fidèles, et tout à coup il y a eu des prises de parole assez étonnantes, parce que moi j'avoue y avoir été en traînant presque un peu les pieds, craignant d'entendre des témoignages sordides, des souffrances qui étaient exprimées, et finalement bien sûr cette question était présente, mais la question a très vite été plutôt de celle de ce qu'il faudrait faire pour sortir de cette crise. Et donc, c'est toute une série de discours très intéressants qui avaient été un peu mis sous le tapis dans le catholicisme français sur la place des laïcs, la collégialité, la place des femmes, l'autorité, effectivement, qui ont été débattues pendant cette heure et demie qui s'est déroulée dans cette église parisienne.
Et la séquence, c'était janvier-mars 2019.
Alors, janvier-mars 2019, c'est vraiment le moment paroxystique où éclate le scandale autour de ces questions de violences sexuelles. C'est pas nouveau, hein, y a toute une histoire, hein, Claude Langlois l'a retracé dans son ouvrage l'année dernière. Il y avait eu un premier moment qui avait été un moment de publicisation de ces effets, de ces affaires, avec la condamnation d'un évêque, ce qui est quand même quelque chose d'assez rare dans l'histoire judiciaire française. Hein,
Donc c'était Monseigneur Piquant.
C'était Monseigneur Piquant, c'était en 2001. Mais à l'époque, ça reste encore des affaires dont les personnes se désolent, mais qui restent vues comme des affaires un peu isolées. Et qui parfois même sont perçues comme... certains catholiques ont un peu de mal avec ces affaires-là, en craignant que ces affaires soient instrumentalisées dans un discours anticlérical. C'est une vieille rhétorique, hein, du discours anticlérical, hein, la figure du prêtre et de sa déviance sexuelle, c'est une constante depuis...
On en parlait au Moyen-Âge.
Oui, hein. Exactement, tout à fait depuis le Moyen-Âge. Alors la caricature anticléricale du 19e en est remplie. Mais ce qui change vraiment autour des années 2018-2019, c'est d'abord la multiplication des révélations, le fait qu'il y ait eu aussi au sein du catholicisme je pense à le livre d'Isabelle de Golemin qui est
sur l'affaire Préna.
Ouais, sur l'affaire Préna, qui a donné à voir les choses un petit peu différemment. Je pense que ça a été quelque chose, il y a eu un effet levier au sein du catholicisme. Et donc, il y a une médiatisation, les journalistes s'en emparent, il y a des films, le film de François Ouzon, par exemple, le documentaire d'Arte sur les religieuses abusées, qui est vu par les catholiques aussi. Hein. Beaucoup de catholiques sont allés voir le film de François Ouzon, ont vu ce documentaire.
Il y a une conjonction de l'actualité judiciaire et médiatique.
Exactement, qui converge pour faire éclater le scandale et qui suscite une énorme énorme émotion collective et qui va provoquer chez les catholiques, que ce soit des clercs, on le voit avec les évêques et on est dans la suite de cette affaire-là aujourd'hui, ou chez des fidèles, chez des théologiens, des théologiennes, l'idée qu'il faut faire quelque chose pour sortir de cette affaire.
Alors c'est vous-même qui allez sur cette piste-là. Comment étudier cette question de la responsabilité? D'abord, peut-être avant de l'aborder, juste sur le mémorial, est-ce que c'est opportun d'avoir une sculpture géante à Lourdes qui, on peut imaginer les noms, vous savez, cet effet déjà en rapport avec d'autres contextes dans l'histoire tout à fait tragique, d'avoir un peu l'équivalent. Est-ce que c'est une idée qui vous paraît pertinente?
Les évêques travaillent sur deux pistes, la piste de l'indemnisation et la piste mémorielle. Alors, vous avez raison, hein, le fait de vouloir reconnaître les victimes afin de les aider à se reconstruire, hein, c'est ça le discours des politiques mémorielles, c'est quelque chose qu'on retrouve sur d'autres thématiques, la Shoah, bien sûr, les attentats aussi, hein, y a tout un travail sur la question de ces lieux mémoriels pour les victimes, et là, y a une réflexion qui est menée, à vrai dire, là, c'est en train d'émerger, il y a l'évêque de Luçon qui a été un peu précurseur, qui, à l'automne, alors le diocèse de Luçon a été un diocèse qui a été particulièrement frappé des faits de pédocriminalité. Et donc l'évêque de Luçon a été un peu précurseur puisqu'il a fait un acte de repentance à l'égard des victimes, mais aussi mis une plaque dans la cathédrale, une plaque qui vise à faire mémoire des drames qui ont eu lieu dans le diocèse. Donc il y a cette piste. Est-ce qu'il faut peut-être une statue, un lieu de culte quelque part à Lourdes ou un espace dans chaque diocèse peut-être. Et puis il y a aussi l'idée peut-être c'est quelque chose aussi qui est dans la réflexion sur un temps dans la liturgie peut-être. Hein, faire mémoire dans la liturgie à un moment, peut-être dans la semaine pascale. C'est des choses qui...
C'est une idée aussi qui est abordée.
Oui.
Sur la question de la responsabilité, Céline Béraud, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on l'étaye de ce point de vue-là? Comment vous l'abordez, vous?
C'est l'idée qu'il y a une responsabilité institutionnelle. S'il y a une politique de mémoire,
s'il y a
une indemnisation, c'est qu'il y a l'idée qu'il y a une responsabilité...
C'est déjà une reconnaissance entre eux du caractère collectif.
Tout à fait, tout à fait. Parce que je l'ai dit, ces affaires, elles ne sont pas nouvelles. Et par exemple, Claude Langlois, dans son livre, montre bien comment est-ce que l'État, comme l'Église... se sont saisis de ces affaires. Je veux dire, d'abord, ça a été une affaire de péché qu'on peut pardonner. Ça a été aussi, c'est le prisme qui émerge et qui, dans les années 50 et qui monte en puissance dans le catholicisme français, l'idée d'une psychologisation, c'est-à-dire des personnes qui sont malades et qu'il faut soigner. Et puis, c'est aussi des délinquants, des criminels qu'il faut dénoncer à la justice. Et voilà. Mais ça, c'était agir face à des personnes, une perspective qui n'est pas forcément une perspective collective, qui peut le devenir, notamment lorsque la justice pointe des complicités, une non-dénonciation, etc. Et là, vraiment, c'est ça aussi le basculement des années 2018-2019, cette idée que c'est l'affaire de toute l'Église, et que donc les évêques se doivent de proposer des pistes pour à la fois écouter les victimes, les reconnaître, les indemniser, les aider, et aussi mettre en œuvre probablement un certain nombre de réformes qui permettraient d'éviter de sortir véritablement dans la durée de ce type de drame.
Quel type de réforme pourrait-on imaginer, Céline Béraud?
Alors, quel type de réforme?
Qui pourrait être annoncé fin mars, par exemple?
Ça, je ne suis pas sûre que c'est ce qui sera annoncé fin mars.
Ça sera peut-être à plus long terme.
Oui, ça sera peut-être à plus long terme. Il me semble que là, on est sur apporter des réponses aux victimes, ce qui est la première étape. Et puis, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a la commission Sauvé, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, qui a été qui est une commission indépendante, qui est dirigée par Jean-Marc Sauvé, qui est un conseiller d'État, quelqu'un qui est tout à fait reconnu, et qui est composé d'universitaires avec des spécialités extrêmement différentes, qui travaillent et qui doivent faire des propositions, justement.
Vous avez été sollicité, vous?
Moi, non, je n'ai pas été sollicité, mais j'ai des collègues très proches qui le sont, je pense à...
Vous y seriez allé?
Peut-être, oui, oui. Je trouve que c'est, enfin, il me semble que c'est une belle opportunité de travail, puisque il y avait eu quand même, Jean-Marc Sauvé avait obtenu à la fois une garantie d'avoir des moyens financiers, parce que ça coûte cher de faire une enquête. Oui. Il faut, je veux dire, il y a eu quand même 1600 victimes qui ont été, qui se sont manifestées auprès de la commission. Il y a eu 70 entretiens approfondis qui ont été réalisés auprès d'un certain nombre de ces victimes. Il y a une enquête quantitative qui va être menée pour essayer de comparer l'occurrence de ces violences dans l'Église par rapport à leur occurrence dans le reste de la société. Il y a un travail sur archives approfondi dans une trentaine de diocèses. Donc, il a obtenu les moyens nécessaires pour travailler et il a obtenu aussi une la garantie de cette indépendance.
Pour un sociologue, c'est tout à fait intéressant.
C'est tout à fait intéressant.
C'est une première d'ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres institutions qui en sont à ce stade-là d'ailleurs? Alors, de l'introspection
Là, je vous répondrai plutôt à l'échelle internationale. C'est-à-dire qu'il y a bien d'autres pays de tradition catholique majoritaire qui ont été confrontés exactement au même scandale que ce que connaît le catholicisme français aujourd'hui et qui ont mis sur pied des commissions, alors qui pouvaient être parfois des commissions parlementaires, parfois des commissions indépendantes d'universitaires. Ça s'est fait aux États-Unis, bien sûr, ça s'est fait en Irlande et dans bien d'autres pays. Donc c'est pas tout à fait original et les personnes qui ont demandé la mise sur pied, notamment les associations de victimes, avaient bien en tête ces modèles étrangers qui ont pu donner lieu justement à des rapports extrêmement riches et extrêmement intéressants. Donc il va y avoir, si vous voulez, il va y avoir l'analyse de ce matériau empirique et il va y avoir des préconisations qui seront faites aussi par Jean-Marc Sauvé. Alors après, la question c'est jusqu'où vont aller ces réformes, parce que c'est moi ce qui m'a intéressé beaucoup dans cet ouvrage, dans l'enquête que j'ai faite et qui a conduit à l'ouvrage, c'est que finalement, ces scandales sexuels, ils font de nouveau émerger toute une série, et c'est tout à fait passionnant à la fois d'un point de vue sociologique, mais aussi probablement du point de vue des acteurs et des actrices qui sont engagés. C'est tout un débat ecclésiologique et théologique qui était un peu plan-plan, un peu mis sous le tapis peut-être, pour toute une série de raisons qu'on pourrait expliquer, et qui réémerge aujourd'hui sur la question de la place des laïcs, sur la question du rapport entre les laïcs et les prêtres, sur la place des femmes, sur cette fameuse synodalité. Hein, qui est beaucoup mise en avant par des personnes qui ont pris soit la parole, soit pris leur plume pour écrire des ouvrages, parce que le début de l'année 2019, c'est aussi un moment d'un foisonnement éditorial tout à fait intéressant, justement, pour rediscuter des questions qui sont des questions fondamentales hein, pour le catholicisme, qui s'inscrivent d'ailleurs dans la réception du Concile de Vatican II. Hein, c'est pour ça que c'est vraiment des questions très très fortes hein, sur la question
du ministère. Donc si on vous suit, Céline Béraud, en quelque sorte, il y a Les affaires de pédophilie, de pédocriminalité peuvent représenter un nouveau levier qui a émergé comme ça dans l'histoire pour en fait faire advenir des réformes qui avaient été un petit peu enterrées dans le sillage de Vatican II, qui n'ont pas vu le jour, en particulier du fait de Jean-Paul II et de sa recléricalisation, si on vous suit, de l'Église. C'est un peu ça, dans l'idée.
Oui, c'est des questions que... La question, on sait que le Concile de Vatican II a à la fois donner une place tout à fait nouvelle aux laïcs et en même temps n'a pas complètement résolu la question de ces rapports entre les laïcs et les prêtres. Le synode, par exemple, cette fameuse synodalité. Une institution qui est assez ancienne, qui a été revigorée et qui s'est déployée dans les années 80-90 dans beaucoup de diocèses en France, qui était quand même assez une façon d'exercer l'autorité un peu différente. Puisque des laïcs étaient convoqués, il y avait des procédures de consultation, c'est une forme de démocratie participative hein, qui était un peu à l'œuvre. Donc voilà un exemple de synodalité qui...
Bon, donc ça vous paraît être un garde-fou contre les abus sexuels?
Moi, c'est pas moi. Moi, je vous dis...
Oui, mais bon, voilà, vous êtes là pour en parler.
Oui, non, mais c'est une des thématiques, effectivement. Et puis, c'est pas que des catholiques français, c'est aussi le pape François. Je veux dire, si vous suivez, si vous lisez... C'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire que il y a par en haut, d'une certaine façon, un discours dont se saisissent justement ces catholiques qui ont envie de réformes, qui ont envie de débats intra-ecclésiales. Et la lettre au peuple de Dieu d'août 2018 du pape François, elle dénonce le cléricalisme, qui est justement une façon délétère d'exercer l'autorité. Hein, c'est ça que veut dire pape François. Et l'antidote... ce qui est tout à la fois l'opposé et l'antidote au cléricalisme, c'est cette fameuse synodalité, alors dont les contours sont encore, demeurent encore assez flous. Et
parce que le risque, essayons d'avancer un petit peu sur ce sujet, le risque c'est que si vous partagez l'autorité, si vous mutualisez les choses, bah sur beaucoup de dossiers aussi, vous risquez d'enliser certains sujets s'il n'y a personne qui assume la responsabilité d'avancer. C'est ce qui, par exemple, je ne sais pas, quand vous voyez par exemple que le pape Benoît XVI a été un des acteurs quand
oui,
même de la lutte contre...
De la prise de conscience au niveau de Rome, c'est un tournant très...
Il y a bien eu un acte d'autorité presque personnel sur le sujet.
Oui, mais il ne s'agit pas de dire qu'il y a la collégialité ou la synodalité, ce n'est pas qu'il n'y a plus d'autorité. Et d'ailleurs, si vous regardez les synodes diocésains, l'autorité, elle reste entre les mains de l'évêque. C'est lui qui reste, qui prend toutes les décisions au final et qui n'est qu'éclairé par...
L'idée, c'est qu'il soit plus éclairé.
C'est plus éclairé, c'est l'idée d'une collégialité, l'idée aussi peut-être d'une mixité dans les lieux de pouvoir d'église, pour sortir d'un entre-soi qui a pu peut-être contribuer justement au silence et à étouffer certaines affaires.
Est-ce que vous estimez, Céline Béraud, vous qui avez fait des recherches qui portent sur la question du genre dans le catholicisme, est-ce que vous estimez que il y a un lien entre la forte masculinité, enfin la masculinité du clergé et les violences sexuelles?
Alors, en 5 minutes comme ça, c'est un petit peu difficile à déployer.
Est-ce que vous dites qu'il faut plus de femmes parce que...
Mais ce qu'il faut, c'est... En fait,
les hommes sont dangereux.
Non. non, mais il faut sortir d'un entre-soi. C'est-à-dire qu'il est évident...
C'est ça, l'entre-soi.
Que, ouais, c'est l'entre-soi, il est construit par... Enfin, il y a plein de propriétés sociales qui peuvent le construire. Et le fait de faire participer des laïcs, qu'il s'agisse d'ailleurs d'hommes ou de femmes, le fait de faire accéder des femmes à... Et d'ailleurs, si vous voulez, les évêques l'ont un peu compris. C'est quand même intéressant, ce qu'on a vu autour des questions d'écologie. Non, je veux dire... Question dont ils se sont saisis pratiquement au même moment que ce dossier monté en puissance. Que font les évêques pour la première fois il y a un an, je crois, un peu plus d'un an maintenant? Ils invitent des laïcs pour la première fois à leur assemblée. Et il y a tout à coup, à Lourdes, comme ça, des évêques qui sont aussi nombreux quasiment que des laïcs. C'est quelque chose de là aussi qui était tout à fait inédit. Et je pense que c'est pas sans lien.
Mais Céline Béraud, vous avez beaucoup de laïcs qui sont condamnés pour violences sexuelles aussi.
Mais tout à fait, mais bien sûr, il y a beaucoup de laïcs.
C'est pas parce que vous êtes laïque que vous allez protéger les...
Bien sûr que non, mais c'est sortir d'un dispositif où on peut s'arranger entre soi, dans un... Voilà, c'est en fait, il y a une volonté, et je crois que les évêques l'ont compris aussi, d'une plus grande transparence. C'est rendre des comptes, c'est rendre des comptes aussi à la justice. Il y a eu quand même, je veux dire, le fait qu'il y ait eu toute une série de diocèses qui ont mis sur pied des conventions avec les procureurs. Vous avez certainement vu ça. Hein. Je crois que les diocèses de Valence, Grenoble et Gap étaient un peu précurseurs.
Paris aussi. Hein.
Paris aussi. Voilà. Et maintenant, ça s'est étendu à un certain nombre de diocèses. Voilà, c'est cette idée que ces affaires, il faut s'ouvrir au reste de et pour un peu plus de transparence.
Ça, c'est un point d'évolution institutionnelle qui vous paraît majeur.
Oui, tout à fait.
Comment reliez-vous ces affaires avec... Parce que vous l'abordez, hein, vous parlez de la mobilisation de la Manif pour tous sur le mariage, contre le mariage pour tous. Vous dites en 2012-2013, l'unanimisme catholique contre le mariage pour tous, dont on a analysé les ressorts avec Philippe Portier, a été très largement construit et donné à voir comme façade institutionnelle par certains évêques et par la militance laïque. Et aujourd'hui, on assisterait en fait à... Je ne dis pas la revanche,
non,
mais peut-être à un élan plutôt du pôle réformiste.
Non, c'est-à-dire que je pense qu'il y a eu toute une conjoncture qui a fait que la pluralité interne, le débat intra-ecclésial, ne se donnait plus à entendre, ne se donnait plus à voir publiquement, ni dans le débat public, ni dans les médias, ni même au sein même de l'Église catholique. Autour de la question du mariage pour tous, tous les fidèles, tous les prêtres n'ont pas été en accord avec les modalités notamment de manifestation, de politisation qui se sont données à voir en 2012-2013. Mais leur expression était, on l'avait vu avec Philippe Portier, mais elle était très vite étouffée, elle retombait très vite. Là, ce qui se passe, c'est pas une revanche du tout. C'est juste que tout à coup, parce que le catholicisme français, il est pluriel. L'épiscopat, il est pluriel. C'est ça. Mais tout à coup, avec cette question des scandales, et je pense que la question du Covid, et notamment le débat autour de la messe, ça c'est intéressant, qui a eu lieu il y a quelques mois, vient encore nourrir un débat. Et je pense que il me semble, d'un point de vue du catholicisme, les catholiques ne peuvent que s'en féliciter. Le fait qu'il y ait de nouveau, on le voit si vous regardez dans des revues de théologie, je trouve ça très très intéressant de voir comment est-ce que la question des ministères est une question qui revient. Vous avez la revue de sciences religieuses des jésuites qui fait un numéro spécial sur les ministères, et puis vous avez, si on veut couvrir tout le spectre, la revue Communio qui fait un numéro spécial sur le prêtre. Très intéressant de voir comment c'est une question qui tout à coup redonne à... Enfin, il y a des écrits, ça dynamise le débat intellectuel. Voilà des choses qui sont... pas question de revanche ou de... Mais
oui, je disais, on est sorti d'une séquence militante qui a peut-être un peu gelé le débat sur cette question.
Tout à fait, c'est exactement ça.
Et l'affaire Barbarin, finalement, a été le moment de mutation entre ces deux séquences.
Ça a levé le voile, et je pense aussi, ça a peut-être aussi... Je pense que pour comprendre ce débat-là, il ne faut pas avoir une espèce de prisme droite-gauche. C'est parce que les gens qui s'expriment aujourd'hui sont des gens qui sont parfois très, très intégrés aux structures classiques de l'Église, mais qui veulent sortir justement de cette séquence des abus, et qui considèrent que pour en sortir, il faut un certain nombre de réformes. Alors qu'ils peuvent aller très loin, puisqu'on a entendu la question des questions qui ont été toujours aux marges du catholicisme français, mais qui là, ce sont la question de l'accès des femmes à l'ordination. Notamment cette question de l'accès des femmes au diaconat, dont on sait qu'elle est encore à l'étude par une commission théologique. Alors, c'est juste la troisième en 20 ans. Mais moi qui suis ces sujets depuis justement 20 ans également, c'est une question qui était, dont c'était peu saisi les catholiques en France. Et là c'est vraiment...
chose qui revient.
Dont les catholiques, les femmes catholiques, se saisissent aussi.
Alors maintenant, il y a, Céline Béroux, il nous reste deux minutes, il y a l'image, quand l'image est abîmée dans l'opinion et que l'Église s'est retrouvée en première ligne finalement d'une campagne à tort ou à raison contre elle exclusivement, en tout cas c'était perçu comme ça, comment est-ce que par des rouages institutionnels vous rétablissez votre image dans l'opinion? C'est quand même difficile ça, non?
Je pense qu'il faut, malheureusement, faut pas que ça, enfin, ce serait bien triste que ça reste à une affaire d'image. Je pense qu'il faut redonner de la confiance, hein, et d'abord la confiance aux catholiques eux-mêmes, je crois. Et je pense que là, il y a un vrai défi pour l'épiscopat, et je pense que un certain nombre d'évêques l'ont bien compris, dans les mesures qu'ils vont prendre, dans la façon dont ces mesures vont être annoncées, vont s'articuler avec les résultats de la commission Sauvé. Mais la confiance, ça se rétablit aussi à l'échelle très locale, parce qu'il y a eu vraiment un ébranlement de la confiance, un ébranlement institutionnel. Je cite à un moment un jeune prêtre qui me dit que les larmes aux yeux, il accompagne une équipe Notre-Dame, et les jeunes couples qu'il a auprès de lui, il y en a deux, un couple qui est quasiment les larmes aux yeux, qui dit on est en début 2019 et on n'a plus confiance en l'Église. Et alors le prêtre lui dit, mais en moi, est-ce que tu as encore confiance? Elle dit oui, mais ne plus avoir confiance qu'en une personne, c'est quand même, je veux dire, le prêtre ne représente pas que lui-même, il représente aussi l'institution. Donc se rétablir la confiance, c'est aussi la rétablir à l'échelle des communautés locales. Et là, je pense que c'est aussi tout ce travail avec les laïcs qui est très important. Et avec les victimes, bien sûr.
Et avec les victimes. En attendant de savoir ce qui sera proposé fin mars, puisque c'est le dispositif précisément qui concernera essentiellement le volet sur les victimes, et puis de voir à long terme comment les choses vont évoluer institutionnellement. Merci de nous avoir donné des éléments de compréhension. Céline Béroux, je rappelle que vous êtes sociologue et directrice d'études à l'EHESS. Et pour éclairer tout cela, le catholicisme français à l'épreuve des scandales sexuels au seuil, qui est le miroir de votre enquête sur la question. Je vous souhaite une excellente journée.